Nos invités, Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice générale du CREDOC. Eli Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif. C'est chez Odile Jacob. Et Philippe Mabille, vous êtes directeur de la rédaction de La Tribune. En une de La Tribune ce matin, MEDEF, la succession de Ruth Bézieux s'active en coulisses. Merci de participer à cette émission en direct. Donc le taux de chômage, on l'a appris hier, est tombé fin 2022 à 7,2%. Elisabeth Borne a tweeté « La France connaît son niveau de chômage le plus bas pour la deuxième fois depuis 40 ans ». Alors comment expliquer que malgré la crise, les pénuries de matières premières et l'inflation, les entreprises continuent d'embaucher ? Exemple chez Brittany Ferries où 800 postes sont à pourvoir, sujet de Camille Wormser et Guy Sabin.
Face à la ville fortifiée, l'Armorique, 170 mètres de long, attend ses passagers à destination de l'Angleterre. Mais avant le grand départ...
On a deux étages comme ça qui sont dédiés aux cabines. Donc c'est pareil, ça peut être un peu impressionnant les premières fois.
Visite du navire pour 60 personnes, peut-être des futurs employés de la compagnie maritime, comme Justine Boisgontier.
Après plusieurs reconversions scolaires, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Et puis j'ai vu que Brittany Ferries recherchait, donc j'ai postulé, puis me voilà ici.
Ces cabines vont devenir leur chambre pendant leur jour de travail à bord.
Moi, je me sentirais bien ici, parce que en réalité, j'aurais juste besoin de dormir. Je suis bien, je vois la mer, je suis dans l'optique de travailler chez Brittany Ferries.
Car la compagnie espère recruter 800 salariés cette saison. Après deux années difficiles liées à la pandémie et au Brexit, elle connaît un regain d'activité, 22% de réservations en plus en ce début d'année.
On recherche du personnel de l'hôtellerie-restauration, soit des professionnels, mais aussi des non-professionnels qui ont une première expérience et qui peuvent embarquer avec nous. Et on embauche aussi des mécaniciens, des matelots à la conduite et également des officiers.
Des employés qui passeront une saison d'avril à octobre à bord des 11 navires de la compagnie.
Alors Eli Cohen, c'est incroyable parce que ce reportage, les rôles sont inversés par rapport à ce que moi j'ai toujours connu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont les jeunes qui vont choisir leur employeur et on a l'impression qu'au contraire, les entreprises sont dans le rôle du demandeur. Ce sont elles qui essayent de séduire les jeunes pour qu'elles viennent, pour qu'elles les choisissent.
Mais c'est tout à fait vrai. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 2 ans à peu près, vous ne rencontrez pas un seul responsable d'entreprise dans quelque secteur que ce soit qui ne vous dise que son problème, son obsession, c'est de recruter du personnel, c'est trouver du personnel. On a l'impression que tout le monde est en chasse et que la denrée la plus rare, c'est les gens prêts à s'employer. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Vous n'aviez pas du tout ce type de situation il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand vous rencontriez un chef d'entreprise, il vous parlait de problèmes de compétitivité, de productivité. Il vous parlait de rationaliser son entreprise, de la rendre plus nerveuse, plus agile. Il vous parlait d'aller chercher des clients. Aujourd'hui, plus personne ne vous dit ça. Alors, ça veut dire 2 choses. La première, c'est que peut-être, et on va en parler pendant toute cette émission, l'activité n'est pas aussi calamiteuse qu'on le dit. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'annoncer la récession, la stagflation, etc. Puis on constate que l'activité économique continue quand même.
Les patrons voient l'avenir en rose. Voilà. Là, par exemple, chez Brittany Ferries, ils embauchent.
Voilà, ça c'est le premier élément. L'élément, c'est que ils cherchent du personnel parce qu'il y a de l'activité. Et l'autre élément, c'est un changement beaucoup plus fondamental. C'est-à-dire les chefs d'entreprise sont en train de se rendre compte que la denrée la plus rare et la plus précieuse, c'est le salarié qualifié, adapté à son job. Et ça, ils font tout pour le garder, même si il y a une baisse d'activité, ils ne vont pas ajuster, ils vont garder, ils vont accepter le coût additionnel pour garder cette ressource précieuse et rare qui est un travailleur qualifié, adapté à son job.
C'est ce que dit votre collègue économiste Gilles Berset. Les entreprises font face à de très fortes difficultés de recrutement, donc elles gardent leurs salariés même si l'activité diminue.
Mais c'est ce qu'on constate.
Alors qu'avant, elles s'en séparaient.
Exactement. Avant, vous ajustiez. Quand il y avait un problème, vous ajustiez la situation en vous séparant d'abord des intérimaires, puis des CDD, et puis même après de CDI. Là, aujourd'hui, non. On se dit, c'est vrai qu'on passe un cap un peu difficile. La facilité, ce serait de se séparer de travailleurs surnuméraires. Mais pourra-t-on les recruter à nouveau quand l'activité repartira de l'avant? Et donc, par crainte de ne pas pouvoir repartir de l'avant en recrutant, en trouvant les personnels nécessaires, on les garde. on les garde.
Philippe Mabille, vous envoyez beaucoup à la tribune de ces patrons, de ces chefs d'entreprise. Que vous disent-ils? Vous parliez de Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui fait la une de la tribune aujourd'hui. C'est vrai, il a dit le rapport de force est désormais en faveur des salariés.
Alors, c'était vrai jusqu'à quand même l'année dernière. Il y a effectivement une situation économique qui n'est pas propre à la France, hein, qui est dans tous les pays du monde. Quand j'étais à Davos en janvier, le sujet des compétences, le sujet des pénuries de main-d'œuvre, c'est la question numéro un, à part bien sûr.
Pas que les pénuries de matières premières, il y a les pénuries de main-d'œuvre.
C'est la ressource la plus chère, la plus rare. Pourquoi ? Parce qu'il faut former les gens. Quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, sa question principale, c'est effectivement ce qu'a dit Eli Cohen, l'adaptation des salariés à tous ces nouveaux métiers qui vont émerger. Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles voient ? Elles voient effectivement les dangers, hein, les dangers qui ne se sont pas matérialisés. Quand on a vu la guerre en Ukraine, la hausse du prix de l'énergie, la crise des approvisionnements, on s'est dit « oulala, ça va être la catastrophe, la récession ». À date, parce qu'il faut rester prudent, cela ne s'est pas produit. Donc effectivement, les carnets de commandes sont remplis, elles ont besoin d'avoir des salariés et le rapport de force reste en faveur, effectivement, plutôt des salariés en ce moment. Après, il pourrait y avoir une deuxième partie de l'année, d'accord, un tout petit peu moins positive, où le sentiment pourrait un petit peu changer. Il y a aussi cette question, vous le voyez bien, des taux d'intérêt qui sont en train de monter.
C'est pas terminé, on a complètement vaincu
l'inflation.
Quand on est en position de force, bah, on va voir son patron, il dit « qu'est-ce que tu m'offres pour que je reste patron ?» D'ailleurs, j'ai besoin d'argent.
Ce alors c'est possible, et ça peut-être on peut en parler, ça va probablement mettre une certaine pression sur les salaires. Il n'y a pas d'indexation des salaires sur la hausse des prix, mais il y a une demande, effectivement, on l'a vu, d'ailleurs une montée de la conflictualité dans un certain nombre d'entreprises. Le cas des raffineries chez Total, mais dans beaucoup d'entreprises, de PME, il y a une discussion qui a lieu, les négociations annuelles pourraient se passer. Alors, elles se passent pour l'instant, d'accord, plutôt bien, oui, mais il pourrait y avoir effectivement un peu plus de pression sur la hausse des salaires.
Sandra Wabian, est-ce que du coup, ces jeunes qu'on a vus dans le reportage, bah voilà, ils sont aujourd'hui plus exigeants, ils savent que la première richesse, c'est l'humain, et donc bah, ils sont en position, pour certains, de faire valoir certaines revendications.
C'est sûr que lorsque le marché du travail est dynamique, on a évidemment plusieurs possibilités de choix et donc on peut un petit peu essayer de négocier. Donc les négociations, elles peuvent porter sur le salaire, comme vous disiez, mais elles peuvent aussi beaucoup porter sur les conditions de travail. Donc à la fois pour les métiers qui s'y prêtent, le télétravail, mais aussi les horaires, la souplesse. Et puis, je dirais aussi l'investissement que va faire l'entreprise en vous, puisque à la fois c'est une difficulté de recruter, mais surtout c'est une difficulté de fidéliser. Puisqu'en fait, à partir du moment où vous investissez dans un salarié, où vous le formez, où il rentre finalement dans le mode de fonctionnement d'une entreprise, bah finalement, c'est une perte quand le salarié s'en va, puisque voilà, vous l'avez formé d'une certaine manière pour d'autres. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un changement de regard par rapport à cette formation, à cette fidélisation des salariés. Ce qui change beaucoup les choses, puisque comme vous le disiez, pendant très longtemps, le rapport de force était plutôt en défaveur des salariés.
T'es pas content, j'en ai plein qui attendent à la porte pour te
voilà.
remplacer.
Et voilà, alors fini, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est vrai aussi que d'une certaine manière, les entreprises payent un petit peu la flexibilité dont elles ont fait preuve pendant des années. C'est-à-dire que l'allégeance qu'on pouvait avoir vis-à-vis de l'entreprise, la confiance qu'on pouvait avoir vis-à-vis des institutions, qu'elles allaient nous garder, nous soutenir dans les moments difficiles, elle a été un petit peu mise à mal par la flexibilisation du marché du travail, par le développement des contrats en CDD, etc. Et là, on voit bien que ce qui remonte, c'est les CDI. C'est-à-dire que non seulement il y a moins de chômage, mais il y a moins d'embauches en CDD, puisqu'en fait, évidemment, les gens préfèrent avoir un contrat qui soit sécurisant.
Mais il y a un élément qui illustre ce changement de monde, c'est qu'aux États-Unis se développent beaucoup les contentieux entre les entreprises et les salariés sur les clauses de non-concurrence. Avant, lorsqu'un salarié quittait une entreprise pour aller dans l'entreprise d'en face, ça ne posait pas de problème particulier. Là, de plus en plus, les entreprises tiennent tellement à garder leurs propres salariés qu'ils les poursuivent lorsqu'ils ont envie de quitter.
On veut tellement le garder qu'on le menace de l'attaquer s'il s'en va.
S'il s'en va, au nom des clauses de non-concurrence, puisque chaque fois que vous quittez une entreprise, vous signez une clause de non-concurrence en disant « vous n'allez pas faire en face exactement le métier que vous faisiez dans l'entreprise précédente ».
C'est pas exactement la meilleure manière de retenir les salariés.
De les menacer, de les attaquer. Ouais.
Non, non, ils cherchent à les garder d'abord. Voilà. Mais je dis que le développement de ce contentieux est un élément du fait que, pour les entreprises, l'actif le plus précieux, c'est le salarié qu'ils avaient formé, qui était adapté rester à son poste. Et lorsqu'il veut quitter son poste pour aller en face, pour gagner un peu plus, eh ben, ça se passe pas toujours très bien.
Alors, tout faire pour faire en sorte que les salariés restent dans l'entreprise, il faut les écouter. Et on sait qu'après le Covid, il y a eu cette volonté de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie de famille. Et par exemple, d'avoir des week-ends de 3 jours. C'est la fameuse idée de la semaine qui s'arrêterait le jeudi soir. Gabriel Attal, le ministre en charge du budget, mène l'expérimentation dans les URSSAF de Picardie. Alors, vous allez voir, c'est un reportage qui a été tourné à Limoges et à Strasbourg avec nos correspondants Caroline Arnold et Antoine Husser, qui sont allés enquêter dans ces entreprises qui pratiquent la semaine de 4 jours. Alors, attention, semaine de 4 jours, mais même durée du temps de travail sur la semaine. On reste aux 35 heures. On regarde.
Travailler 4 jours par semaine au lieu de 5, alors que le débat semble de plus en plus s'imposer. Au pied de ces immeubles de bureaux à Strasbourg, la plupart des salariés semblent à première vue séduits par l'idée.
Moi, je suis jeune, donc je n'ai pas forcément d'enfants, mais pour mes collègues qui ont des enfants, pour eux, ça serait beaucoup plus simple pour leur vie de famille, pour concilier les deux. Pour moi, ce serait différent, ce serait plus facile au niveau de, pas du repos.
Le désavantage, c'est d'avoir 3 jours de congé après. Donc, travailler peut-être un peu plus d'heures au niveau des 4 jours, puis imbriquer les 5 en 4.
Car pas question de baisser le temps de travail hebdomadaire, mais bien de réaliser le même nombre d'heures sur 4 jours seulement.
Alors moi, ça me conviendrait dans la mesure où c'est au bon vouloir du salarié. Que le salarié puisse choisir entre les semaines des 4 jours et de 5 jours.
Si derrière, je me dis, bah, dans tous les cas, j'ai 3 jours de repos, voilà, je serre les dents 4 jours et ça passe. Après, il y en a qui ont beaucoup de sport les soirs, qui font des activités le soir. Ils n'ont pas forcément la possibilité de dire, bah, non, je reste jusqu'à 19h, 20h au boulot.
La semaine de 4 jours de travail, c'est en tout cas déjà une réalité pour les salariés de cet atelier de porcelaine en Haute-Vienne. Face à l'explosion des coûts de l'énergie, leur entreprise a décidé de ne plus faire fonctionner le four que du lundi au vendredi, un rythme plutôt bien accepté par les salariés.
Économiser des trajets, d'essence, quoi. Voilà.
Les 4 jours, bon, c'est des grandes journées, mais on sent moins la fatigue quand même.
Une nouvelle organisation qui n'est pour l'heure qu'un test.
On n'a pas vraiment tous les retours, mais je pense que tout le monde a bien adhéré à ce mode de fonctionnement. Ça n'a pas eu d'impact, pour l'instant, sur l'activité et la productivité.
Des effets qui devraient être réévalués dans les prochains mois, selon l'évolution notamment des coûts de l'énergie.
Sandra Wabian, ça c'est l'un des héritages du Covid, c'est qu'on a vu qu'on pouvait laisser les salariés s'organiser comme ils voulaient et qu'au fond, bah, le boulot était fait en fin de semaine.
Alors, en fait, ce mouvement d'autonomisation dans le travail, c'est quelque chose qu'attendent les salariés depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. L'idée d'avoir une vie équilibrée, où on ne sacrifie plus tout à son travail, c'est quelque chose qui est très présent, notamment chez les jeunes générations, également avec la féminisation du marché du travail. Et donc, le Covid, d'une certaine manière, a permis une forme d'expérience grandeur nature, à l'échelle d'un pays, d'un pas de côté sur les rythmes. Alors, pas pour tout le monde, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a une grande partie des salariés aussi qui est qu'on continuait à aller sur leur lieu de travail. Mais effectivement, en tout cas, ça a permis une forme de recul. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce que je fais toute la journée? Est-ce que mon salaire, est-ce que je gagnerais pas plus en qualité de vie si je travaillais un petit peu moins? Et après, la question qui se pose aussi, c'est finalement le contenu du travail. Et on l'entend bien dans ce que disait un des interviewés. Il serre les dents. C'est-à-dire que si son travail était épanouissant, s'il trouvait du sens, et peut-être qu'il aurait plus envie d'y aller tous les jours. Mais comme il serre les dents, d'une certaine manière, gagner une journée chez soi, c'est appréciable. Parce qu'en fait, en France, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a un souhait d'autonomie, de liberté, de création au travail. C'est pas comme ça, par exemple, dans les pays anglo-saxons, où on considère qu'au contraire, plus le travail est cadré, plus, c'est un travail qui est équitable, puisqu'on va être jugé sur des critères fixes et équitables pour tout le monde. En France, on a envie d'être un peu une sorte de créateur qui va faire une œuvre. Et le fait que, avec le temps, il y a eu de plus en plus des process qui ont été mis en place, qu'on se soit un peu éloigné de ce qu'on produit à la fin, fait qu'il y a un peu aussi une distance qui se crée au travail.
Élie Cohen, est-ce que notre rapport au travail a changé et suite d'ailleurs à la baisse du chômage? Avant, on avait la chance d'avoir un emploi, donc on le chérissait. On faisait tout pour plaire à son patron. En même temps, les boulots, il y en a partout, comme disait Emmanuel Macron. Donc le travail, il est réduit à son expression la plus pénible, quoi. C'est le labeur, se lever tous les matins à 7h du matin pour être au service de son patron.
Je crois qu'il y a plusieurs éléments à avoir présents en tête. D'abord, effectivement, la grande bascule, c'est chez les jeunes. Pour les jeunes, la vie ne s'organise pas uniquement autour du travail. L'idée d'un équilibre entre travail et non-travail, entre vie personnelle et vie de travail, entre vie familiale et vie de travail, c'est une idée qui est tellement ancrée maintenant que lorsqu'un jeune négocie son embauche, eh ben, il négocie en même temps les moments de liberté, la modulation du temps de travail, l'espacement des jours de congé, etc. Donc c'est entré dans l'ordre des choses. On n'est pas à ce point à la quête du travail qu'on est prêt à accepter toutes les conditions possibles et imaginables. Donc ça, c'est un premier changement, c'est un premier basculement. Le deuxième changement, c'est que, effectivement, à la faveur de la crise du Covid, on a appris que le travail, ça pouvait être du présentiel et du distanciel, et qu'on pouvait donc doser différemment le présentiel et le distanciel sans que ça ait un impact négatif ni sur le travail, ni sur les relations de travail, puisqu'on organise les interactions, on essaye d'optimiser les réunions, on essaye de perdre moins de temps dans les réunions, etc. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Maintenant, ce qu'on vient de voir là sur la semaine de 4 jours, au départ, c'était une revendication pour travailler moins.
Oui.
Là, avec la réforme des retraites, on est plutôt dans une logique du travailler plus. Et on entend beaucoup d'arguments sur le fait que les rythmes de travail actuellement, ça casse physiquement. Donc si le travail est encore plus intense, puisque concentré sur 4 jours, ça risque de poser des problèmes. Donc ce n'est pas tous les secteurs, ce n'est pas tous les emplois qui peuvent évoluer comme ça. Mais j'ai noté quand même 3 éléments intéressants dans ce qui est dit et qui peuvent expliquer le basculement. Premièrement, l'énergie. Le coût de l'énergie est tel que dans un certain nombre de secteurs, il est optimum d'utiliser moins d'énergie et donc de concentrer le temps d'usage des machines et le temps de travail et donc d'essayer d'optimiser la consommation d'énergie.
Là, on l'a vu dans le reportage, le four, c'est
exactement,
une porcelaine. 4
jours seulement.
Voilà, on l'éteint le vendredi.
On l'éteint le vendredi. Donc ça, c'est un élément. Et donc cette idée d'une réorganisation du travail autour du facteur énergétique, c'est quand même quelque chose d'important et de nouveau. Le deuxième élément, c'est les temps de transport. On dit, bah oui, quand même, compte tenu du mitage territorial, du fait que beaucoup de Français ont des trajets domicile-travail très importants, la durée de transport et le coût du transport devient un des éléments également de la détermination de l'organisation du travail. D'où la nécessité de le limiter. Et puis enfin, ce qui a été dit également sur le fait de s'accomplir dans son travail, ça effectivement c'est une thématique ancienne. On cherche depuis longtemps des configurations variables, d'organisations différentes. On n'est plus dans le monde de la chaîne où tout le monde travaille pareil sur des chaînes. Là, on cherche une adaptation, une autonomisation et puis un travail qui a du sens et où on s'accomplit davantage. Ce sont de vrais bouleversements. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh ben, il y a des pénuries de salariés compétents dans des tas de secteurs. Eh bien ça permet une accélération de la modification du travail. J'ajoute juste un élément qui, moi, me trouble beaucoup quand on interroge les Français sur leur situation de travail. Il y a des enquêtes européennes qui ont été faites qui montrent que les Français sont les plus malheureux au travail. En gros, les conditions de travail, les relations hiérarchiques.
Bah, c'est le syndrome du petit chef alors qui vous rend malheureux.
C'est le syndrome du petit chef, c'est l'absence de vrai dialogue social, etc. Et puis quand on interroge individuellement les Français sur leur travail individuel, ils aiment bien leur travail, ils aiment bien les relations qu'ils ont avec les collègues, etc. Et moi j'ai l'habitude de dire que l'un des éléments qui caractérise le mieux l'attitude des Français, c'est malheur public, bonheur privé. Voilà. C'est vraiment, les gens sont contents de leur travail.
Le pays va mal et moi je vais bien.
Voilà, exactement. Et là, on l'observe encore à nouveau dans ce type de situation.
C'est aussi que c'est plus difficile de dire que ça va mal dans sa vie, dans son couple, dans son travail, que de dire que la société va mal.
On n'ose pas s'avouer que soi-même, on est malheureux.
Il y a aussi une question
de Philippe Mabi, positivement, ils aiment bien leur travail.
Philippe Mabi, est-ce que notre rapport au travail a changé? Il y a une expression qu'on a beaucoup entendue à l'occasion de cette réforme des retraites, et d'ailleurs qui explique peut-être, qui illustre peut-être ce changement du rapport au travail, c'est l'expression « ne plus perdre sa vie à la gagner », avec cette idée que la vie, elle commence le jour de la retraite et qu'avant, c'est une servitude dont il faut s'affranchir, le travail. Et puis, autre sous-question par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que vous, à la tribune, ou maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus d'autonomisation, et avec les nouveaux outils, on peut s'arranger et être beaucoup plus flexible dans sa façon d'organiser sa vie professionnelle.
Non, mais tout le monde n'est pas égal, effectivement, dans cette nouvelle organisation du temps de travail. Il est certain que dans des métiers de service, comme le journalisme, par exemple, on a pu télétravailler du jour au lendemain, le jour où est arrivé cette pandémie, et c'est vrai dans un certain nombre de la société, mais pas toute la société. On sait bien, il y a les premières lignes, les deuxièmes lignes, des gens qui sont contraints d'aller au travail. Non, je dirais deux choses peut-être par rapport à ce qui a beaucoup a été dit. Il y a Keynes qui avait dit, je crois, en 1930, dans un court texte, que la tendance générale était d'arriver à un temps de travail de 15 heures par semaine. Il y connaît
son texte très bien. Alors là, on n'y va pas, là.
Alors là, voilà, c'est cette idée.
M. Macron nous dit qu'il faut travailler plus.
Il y a une ambiguïté entre organisation du travail et du temps de travail, notamment avec l'expérimentation en grandeur réelle que nous a apporté la pandémie. Et effectivement, les bénéfices, comme le disait Élie, dans une crise énergétique, ça peut être très très bien, même pour une entreprise, d'organiser le travail différemment pour faire des économies. Il y a beaucoup d'entreprises qui prennent ce genre d'initiative, qui demandent évidemment sur la base du volontariat aux salariés s'ils sont prêts à travailler 4 jours. Il y a des expérimentations en France, mais dans le monde entier, en fait, ce sujet de la semaine de 4 jours, il est en train d'émerger. Alors, il émerge en France politiquement aussi, il ne faut quand même pas être dupe, Gabriel Attal en parle parce qu'il y a la réforme des retraites. Et quand on regarde effectivement ce que disait Keynes sur la semaine de 15 heures, c'est-à-dire que c'est la tendance naturelle à la baisse du temps de travail, à cette société du temps libéré, on voit bien qu'il y a une contradiction, et il l'a dit, avec la nécessité, on nous tient le discours, il faut travailler plus. Et l'une des limites, justement, à cette diminution du temps de travail, c'est qu'il va bien falloir financer des pensions où on va devoir rester plus longtemps à la retraite, et donc il va bien falloir les financer, que quelqu'un les finance. C'est pas,
donc c'est une illusion d'imaginer...
Du droit à la paresse, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne.
C'est une illusion d'imaginer que la semaine de 4 jours...
Et je pense voilà, qu'il faut pas être dupe, d'abord, de l'exercice du gouvernement qui utilise la carotte, peut-être, est-ce qu'il y aura une négociation ? Enfin, on entend dire qu'Emmanuel Macron, après la réforme des retraites, si elle passe, si les 64 ans passent au Parlement... voudrait effectivement lancer une discussion sur la question du bien-être au travail, sur la question, on parle beaucoup, Bruno Le Maire l'a dit, du dividende salarié, du meilleur partage de la valeur. Il y a cette question du sens, vous l'avez dit, qui est essentielle chez les jeunes, c'est-à-dire ne pas perdre sa vie effectivement à travailler comme peut-être leurs parents l'ont fait. Donc il y a aujourd'hui un bouillonnement autour de cette question du travail, du détravail, le quiet quitting, qui peut inciter effectivement et les entreprises et les salariés à rediscuter de cette valeur travail. Certains ont dit c'est une valeur de droite, d'autres disent c'est une valeur de gauche. J'étais frappé aussi sur cette référence, quand même, je termine par là, à 82,7%. Je vous rappelle qu'à l'époque, donc Mitterrand en 82, c'était le chômage de masse, c'était la crise. Quand on avait 7% de chômage, c'était une catastrophe. Là, aujourd'hui, les conditions sont différentes. Il y a quand même toujours 7%
dans l'autre sens,
de chômage. Oui. Le plein emploi, parce que le ministre de la porte le mot de plein emploi. Le plein emploi, c'est de descendre, si c'était possible,
à 5.
En dessous de 5. On en est très loin.
Alors, ce que demandent les Français, c'est plus désormais ce que nous demandons, d'avoir un travail. Ça, il y en a partout. C'est d'avoir un travail qui paye bien. On va regarder ensemble... Sandra Wabian, c'est incroyable, hein, le Via Voice qui a enquêté pour Libération les préoccupations des Français. En numéro 1, bah, sans surprise, c'est le pouvoir d'achat. Et les questions d'emploi arrivent, on va voir, ils arrivent en 8e position, l'emploi. En 1, c'est le pouvoir d'achat, puisque l'inflation impacte, voilà, on le voit à l'écran, l'inflation impacte notre budget et modifie nos habitudes alimentaires. Par exemple, les fruits et légumes sont devenus un luxe pour beaucoup de Français qui désormais y renoncent. Sujet d'Anne-Claire Le San.
Fruits et légumes boudés par les Français avec des prix qui ont flambé. En un an, plus 9,8% pour les légumes et pour les fruits, plus 4,6%. Pour Rachel, auxiliaire de vie, faire ses courses devient de plus en plus compliqué.
Les prix au marché, avant, moi je fais le marché souvent, avant c'était raisonnable, mais vraiment raisonnable. On arrivait à acheter pour 10 euros le caddie, il est plein de fruits et légumes. Aujourd'hui, il faut dépenser 40 euros, 35 euros dans un marché, c'est trop.
Alors comment continuer à manger des produits frais sans se ruiner? Sur ce marché de Marseille par exemple, le lundi, ce primeur écoule à bas prix ses invendus du week-end.
Aujourd'hui, c'est tout à 1,99€ dans tous les légumes. C'est la promotion du lundi.
Voilà, Sandra Wabian, maintenant, il faut attendre les promotions pour pouvoir acheter des fruits et légumes. Pour... Franchement, avec cette hausse des prix alimentaires, nous avons modifié notre façon de consommer. Et d'une mauvaise façon, c'est plus de plats industriels, de pizza congelée.
Non, plats industriels, pas forcément. Mais par contre, c'est vrai que sur la diversité alimentaire et notamment sur la consommation de fruits et légumes,
Ça a diminué également la consommation de viande, de poisson. Donc, on est quand même sur le frais, en fait, qui diminue. Et donc, on va se reporter sur de l'épicerie, mais ça peut être des conserves, ça peut être du riz des pâtes, ça peut être voilà, des produits qui vont se garder aussi. Parce que comme ça, bah, y a moins de risque de les jeter. On va aussi faire un peu le fond des placards. Et globalement, on a une augmentation du sentiment de restriction dans la population française qui est vraiment très marquée. Je regardais encore ça tout à l'heure. Au début des années 80, on avait 15% de la population qui disait qu'elle devait se restreindre financièrement sur ses dépenses d'alimentation. Et aujourd'hui, là, la dernière vague d'enquête du CREDOC, on est à 42%. Donc, c'est quand même vraiment un sujet. D'autant qu'il n'y a plus tellement d'autres marges de manœuvre. C'est-à-dire que le logement prend une grosse part du budget. L'énergie a aussi augmenté. Les transports, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour diminuer ces transports, puisqu'il y a déjà eu beaucoup de renoncements aux déplacements pour les loisirs. Donc, en fait, il reste l'alimentation. Et alors, il y a des dépenses, on peut se dire, un petit peu accessoires, bon, bien que ça se questionne toujours, cette question d'essentiel ou d'accessoires.
Ouais, parce que c'est le sel de la vie. Hein.
Noël, voilà. Par exemple,
renoncer à aller au resto ou au cinéma.
Voilà, les achats alimentaires, par exemple, un peu luxueux à Noël, ont diminué, ont été beaucoup moins importants cette année. Mais il y a aussi, en plus, du coup, effectivement, ce sentiment un peu de déclassement, c'est-à-dire se dire qu'on ne peut plus s'offrir des petits plaisirs. Il y a en plus des difficultés à avoir une diversité alimentaire qui soit de bonne qualité. Donc, c'est un vrai enjeu de santé publique. Parce que tout tenir à la fois la santé, la finance, enfin le budget, c'est de plus en plus difficile.
Philippe Babi, c'est vrai que c'est une vraie ponction sur votre pouvoir de vivre, hein, pour reprendre l'expression de Laurent Berger, cette inflation, parce que donc plus 13 pour l'alimentaire, plus 6, ça c'est le chiffre général, mais tout augmente, même les autoroutes, on se demande pourquoi, c'est plus 4,7. En face, les salaires, alors à part le SMIC, mais les salaires n'augmentent pas à hauteur de l'inflation.
Oui, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Alors, évidemment, on va voir, parce que si l'inflation devait durer longtemps, cette question pourrait se poser de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on essaye de l'éviter? C'est parce que c'est un peu le scénario du pire, c'est celui qui peut enclencher ce qu'on appelle la spirale prix-salaire, c'est-à-dire qu'on ne sortirait pas de cette situation-là et on risquerait de connaître, alors pour le coup, exactement le contraire, ce qu'on décrit depuis le début de cette émission, on pourrait tomber dans ce scénario stagflationniste de croissance faible avec une inflation élevée qu'on a connue dans les années 70 avec des taux d'intérêt qui flambent. Ça, c'est le pire des scénarios qu'on cherche à éviter. On n'y est pas encore, mais effectivement, il faut tenir. Alors juste, je voudrais faire un point sur cette histoire des fruits et légumes, de la santé, parce qu'on a vu pendant la crise Covid, avant donc le démarrage de l'inflation, que les Français s'étaient remis, par exemple, à la cuisine, à faire la cuisine à la maison, avec les enfants. Alors, il y a ce sujet aussi du potager, de possible. Donc, est-ce qu'il ne manque pas un problème d'éducation, justement? Et là, il y a une vraie responsabilité, je pense, et des pouvoirs publics, de l'école.
Renouer avec le potager de nos grands-parents, quoi.
Il y a énormément de moyens d'avoir des fruits et légumes moins chers que si on les achète dans les circuits de la grande distribution, par des tas de circuits associatifs, comme les AMAP ou d'autres. Oui. Pourquoi ne pas essayer, effectivement, de faire l'éducation à simplement la santé? Parce que ce que vous dites sur les plats cuisinés, si on revient à ce qu'on appelle la malbouffe, du fait d'un appauvrissement, d'une paupérisation de ceux qui, effectivement, seraient les plus infectés par la situation de crise. Là, on dit qu'il n'y a pas de crise, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent une vraie situation de crise et qui voient bien que leur pouvoir d'achat a diminué. Ça serait très mauvais. Ça serait mauvais pour eux-mêmes, pour la société dans son ensemble, parce que la santé générale de la population se dégraderait. Donc il y a un vrai, je pense, sujet peut-être à se préoccuper, pas seulement de regarder les grands indicateurs macroéconomiques, mais la vraie vie des gens et les vrais moyens de les améliorer.
Élie Cohen, est-ce que ça c'est un problème? C'est que le travail, maintenant, on a l'impression que le travail ne paye plus. C'est-à-dire que je travaille, j'ai un CDI et je ne m'en sors plus. Et alors, ce n'est pas un phénomène que français. Je voyais dans le Guardian, là, c'est cette enquête qui disait « Cela ne vaut tout simplement pas la peine. Pourquoi le travail à temps plein ne paye plus au Royaume-Uni ?» En plus, c'est un problème, on a l'impression qu'il n'est pas... qui touche toutes nos pays d'Occident.
Aussi bien au Royaume-Uni qu'en France, que dans la plupart des pays européens, l'accélération de l'inflation qu'on a connue au cours des deux dernières années, qui n'a pas été compensée par des hausses de salaire, fait qu'il y a un phénomène de paupérisation relative. Et si en plus vous ajoutez à ça que dans les deux principaux postes de dépenses, que sont l'alimentaire et l'énergie, la hausse des prix a été encore beaucoup plus importante que l'indice moyen des prix, donc vous avez pour les classes inférieures, je dirais, une double peine. Non seulement il n'y a pas eu la compensation de la hausse générale des prix, mais en plus, ils doivent payer beaucoup plus pour l'énergie et l'alimentation. Alors, en même temps, je dirais que l'une des choses qu'on constate, c'est une augmentation de l'épargne, notamment pour les classes moyennes, et c'est là où on voit l'effet de la distribution de pouvoir d'achat avec le quoi qu'il en coûte en France et ailleurs pendant la période Covid et post-Covid, des Français qui ont reçu des moyens supplémentaires qu'ils n'ont pas dépensés ont épargné. Et dans l'explication de la situation actuelle, moins catastrophique qu'on aurait pu le penser en matière de croissance, il y a le fait qu'effectivement, ce surcroît d'épargne a été partiellement mobilisé pour de la consommation et notamment de la consommation de services, qui fait que l'activité n'a pas déprimé autant qu'on l'avait anticipé. Et donc, si on doit résumer, en matière énergétique, on est en train de corriger les effets de la hausse astronomique des prix dû à la crise
ça, ça
Covid
va, ça va se calmer, là, ce qui se passe oui, sur les marchés financiers
absolument.
Va avoir des
donc montre la qu'il y a, voilà, il y a une accalmie sur les prix de l'énergie,
du gaz,
sur les prix également des matières premières, on voit une certaine accalmie. Cette mobilisation de la capacité d'épargne pour la consommation qui joue, ce qui fait que, moi, il y a un indicateur que j'aime bien, c'est la révision des prévisions de croissance par l'OCDE et la révision des perspectives d'inflation par l'OCDE. Eh bien, depuis 9 mois, les révisions qui se font sont systématiquement dans un sens positif. Ah. C'est-à-dire la situation...
Plus de croissance, moins d'inflation.
Voilà, plus de croissance, moins d'inflation, alors que dans notre représentation générale, ouais, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on était installé dans la perspective de plus d'inflation et moins de croissance, et le fameux scénario de la stagflation,
oui,
et pas plus tard
qu'il y a... Il pourrait y avoir une seconde lame avec la réouverture de la Chine,
tout
qui
à
pourrait
fait
faire remonter, enfin, la sortie de la politique zéro Covid, qui pourrait faire remonter
tout à fait,
la pression sur le prix du pétrole et donc sur les taux d'intérêt.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, mais je suis quand même surpris par le fait que les entreprises continuent à investir, et puis surtout, même en matière de production industrielle, on avait annoncé un effondrement de la production industrielle partout en Europe. Ce qu'on constate, c'est que la production industrielle a baissé effectivement d'accord, en Allemagne, mais en Espagne et en Italie, où on attendait une baisse, la dernière révision des prévisions de croissance montre qu'il y aurait plutôt une hausse. Donc, on était dans un scénario récessif pour l'ensemble de l'Europe, puis on était dans un scénario zéro plus, et maintenant on est dans
plus
un scénario...
Plus 0,7 hein, pour voilà, la croissance française.
Et on est maintenant
française,
dans un petit plus. Et donc, je dirais simplement l'évolution de la tendance des prévisions dit quelque chose de l'évolution de l'économie.
Alors, vous le disiez, hein, le gouvernement a sorti le carnet de chèques pour aider les ménages à traverser cette période très inflationniste. Ça a coûté très cher. Du coup, le gouvernement maintenant entend cibler les aides, notamment au carburant. Le problème quand on cible, c'est de toucher la cible. Et avec le chèque carburant, sur les 10 millions de Français éligibles, la moitié n'a pas réclamé le chèque carburant, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence de ce chèque. Du coup, le délai pour le réclamer va être allongé jusqu'à la fin du mois de mars. Sujet de Julien Bigard avec Gwen Alanic et notre bureau de Lyon.
Ce devait être la solution du gouvernement pour aider les Français à la pompe. 100 euros pour chaque travailleur avec un revenu modeste et possédant un véhicule. Une aide prolongée, car vous êtes nombreux à ne pas en avoir entendu parler.
Mais c'est pour qui, ça?
Je suis pas au courant, mais on doit s'adresser à qui pour en bénéficier?
Vous en avez fait la demande?
Non.
Pourquoi?
Parce que je sais pas comment ça marche.
Sur les 10 millions de Français ayant le droit à cette indemnité carburant, seul 1 sur 2 s'est inscrit sur le site dédié pour recevoir les 100 euros. Une personne seule, gagnant moins de 1314 euros net par mois, peut y avoir droit. Pour un couple avec 2 enfants, le plafond est fixé à 3 941 euros environ. Si 2 personnes possèdent une voiture au sein d'un même ménage, le chèque se monte donc à 200 euros. Sébastien Bayer, que l'on a rencontré à la pompe, a le droit à cette aide, mais il fait partie des millions de Français à ne pas l'avoir demandé. La faute, un manque de communication, selon lui.
Vous en aviez entendu parler ou pas du tout?
Non, pas du tout, non. Vous êtes les premiers à m'en informer. Ouais, c'est une bonne chose, mais il pourrait même faire plus, hein, parce que là, en ce moment, le prix du gasoil, des fois, ça vaut pas le coup d'aller travailler, en fait. Hein.
Désormais averti, en quelques clics sur son téléphone...
Saisi de votre demande.
Ce salarié d'un hypermarché s'inscrit sur la page web dédiée.
On trouve tout de suite, ouais. Si on le tape, c'est le premier truc qui m'a affiché. Le formulaire a l'air pas si compliqué. Juste numéro le fiscal et puis plaque d'immatriculation.
Alors, ce qu'on va voir bien, comment expliquer, c'est ce qu'on appelle le non-recours, je crois, hein. C'est-à-dire le fait qu'il y a des aides, C'est vrai pour le chèque carburant, mais il y a aussi le RSA. On s'aperçoit qu'il n'est pas demandé par de nombreux Français. Le minimum vieillesse également. Comment ça s'explique que toutes ces aides ne touchent pas leur cible, comme on dit?
Alors, en fait, là, à partir du moment où l'aide n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas versée directement sur votre compte en banque, soit parce que vous étiez déjà enregistré auprès de la CAF ou auprès des impôts, etc., eh bien, en fait, il faut faire une demande pour aller la chercher. Et cette demande, elle crée beaucoup de freins. Il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir que l'aide existe. Donc là, on l'a bien vu, il y a certains qui ne savent pas. Il faut penser qu'elle nous est destinée. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi qu'ils n'y auront pas droit. Ensuite, il faut savoir où trouver l'aide. Et puis après, il y a des ressources administratives. Parce que, alors là, apparemment, c'est relativement simple. Mais pour beaucoup d'aides, il faut apporter un certain nombre de preuves, etc. Et en plus de tout ça, s'ajoute un frein à, si je puis dire, sur le plan symbolique. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie de la population qui ne souhaite pas être aidée, qui souhaite gagner sa vie avec son travail et qui, en fait, en étant aidée, d'une certaine manière, se sent...
Ça vous renvoie l'image d'un loser, quoi.
Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sujets autour de la cistana. Enfin, il y a une forme de stigmatisation, finalement, des politiques sociales qui créent aussi une distance. Donc, tous ces freins s'ajoutent. Il y a aussi la fracture numérique. Donc, il y a un certain nombre d'aides qu'il faut obtenir, en fait, en ligne, avec donc un mot de passe, un identifiant et
15%
tout ça.
Des Français qui n'ont pas Internet. Hein.
Alors, c'est un peu moins maintenant. On est plutôt aux alentours de
8%. 60 millions de consommateurs, là, qui...
La dernière enquête qu'on a fait au Crédoc pour le ministère montre qu'on est plutôt à 8%. D'accord. Mais après, ça ne suffit pas de seulement avoir Internet. Il faut savoir s'en servir. Et par exemple, les jeunes dont on parle beaucoup, qui sont très à l'aise sur les usages de loisirs, le sont beaucoup moins sur les usages administratifs.
Quand on leur demande le net fiscal, je ne sais pas quoi...
Exactement, de remplir, même avec Parcoursup, etc. Et donc aujourd'hui, savoir se débrouiller en ligne pour ces démarches administratives, c'est compliqué. C'est pour ça que, depuis un certain temps, on fait de plus en plus d'aides automatiques qui sont versées. Ça a été le cas d'un certain nombre de chèques qui ont été faits récemment, directement, en fait, sur le compte en banque pour que... On ne crée pas des usines à gaz, c'est-à-dire plein d'aides, mais qu'il faut à chaque fois aller demander aide par aide. Quoi.
Philippe Mabie, c'est vrai, plein de chèques. Il n'y a pas que le chèque carburant, il y a le chèque vélo, le chèque granulat. je crois que c'est Dominique Seux sur France Inter qui s'était amusé à les compter. Il en avait dénombré une dizaine. Édouard Philippe, dans Le Point. J'ai regardé la liste des chèques, c'est effrayant, il va falloir arrêter d'en faire. Est-ce que l'astuce, c'est si le prix du poivron augmente, on va faire un chèque poivron? Non, mais je veux dire, ces chèques sont sûrement très légitimes, mais est-ce qu'on ne met pas le doigt dans un engrenage qui est compliqué à la fin?
On est clairement dans la sortie difficile du quoi qu'il en coûte, effectivement, avec ces milliards qui ont été distribués, à juste titre, pendant évidemment la pandémie, puisqu'on avait arrêté l'économie. Là, on est dans une situation, effectivement, où on arrose un peu le sable avec tous ces chèques. Je crois que la problématique, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'eux, quand ils y vont chaque semaine faire le plein, ils voient le prix des carburants. Et c'est vrai que faire le lien, pour prendre cet exemple que vous donnez, entre un chèque que vous recevez une fois, vous ne savez pas forcément d'ailleurs pourquoi vous le recevez, mais on vous dit que c'est pour les carburants, mais après vous avez votre vie, vous faites autre chose. Et le jour où vous allez à la pompe et vous payez 100 € pour faire le plein, là où vous payez autrefois 70, etc., les gens probablement se disent, on se moque de moi, on ne résout pas mon problème. Je rappelle quand même qu'au niveau actuel du prix des carburants, et ça pourrait s'aggraver à cause notamment du risque, si la Chine repart fortement dans le cours de l'année, ça risque de faire remonter le cours du pétrole. Donc on risque d'avoir un cours, notamment un prix du diesel, avec un embargo russe dont on parle assez peu, mais depuis le 5 février, un embargo sur le diesel qui provenait de Russie. Donc il y a un vrai risque que le prix du diesel, qui concerne beaucoup, beaucoup de Français qui travaillent et qui roulent beaucoup, passe au-dessus des 2 €. Et là, ça, je rappelle, la crise des gilets jaunes, on était à 1,50. Donc il y a vraiment aujourd'hui, sur cette question des carburants, des transports, une attente peut-être de solution. Alors, peut-être une solution plus visible serait d'utiliser des moyens modernes, quitte à demander aux gens de demander une aide au gouvernement sur un smartphone. Pourquoi on ne fait pas une carte qui directement, certains pétroliers comme Total Energy ont fait cette proposition au gouvernement d'utiliser la carte de fidélité de chaque distributeur d'énergie en disant ben, vous allez avoir une ristourne. Ristourne que Total vient d'ailleurs, vu ses résultats assez remarquables, de proposer de rétablir, ils en avaient créé une au mois de l'automne, au moment où ça avait commencé, et là ils disent, comme ils sentent bien qu'il va y avoir ce sujet qui revient, qu'il va falloir faire une nouvelle ristourne sur le prix du carburant. C'est quand même aujourd'hui comme le prix du pain autrefois, le gros symbole aujourd'hui, quand ça va ou quand ça va pas. Et quand les gens voient les prix du carburant élevés, ils sont souvent en colère.
Élie Cohen, quand on n'arrive pas à boucler son fin de mois, qu'on ne s'en sort plus, c'est vrai qu'on ne se tourne pas vers son patron pour lui demander une augmentation, on se tourne vers l'État pour lui réclamer un chèque. Est-ce que c'est une habitude que nous avons prise, alors qui s'est renforcée avec le quoi qu'il en coûte, mais qui va être difficile à tenir sur la durée?
Vous touchez du doigt un point très important, c'est qu'on avait l'habitude de parler d'État-providence. Là, il faudrait vraiment parler de mère-providence ou de père-providence. Et d'ailleurs, ça a été théorisé par Bruno Le Maire quand il a dit au plus fort de la crise du Covid qu'il voulait protéger les Français des effets de la crise. Alors, on veut protéger les Français contre les effets du Covid, on veut protéger les Français contre l'inflation énergétique, on veut protéger les Français contre... Je veux dire, à la fin du jour, ces proclamations sonores de la part de l'État sont un peu trompeuses et un peu creuses. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez bloqué les prix de l'énergie pendant un certain temps? Puis là, il arrive un moment où vous libérez à nouveau les prix de l'énergie, et on le voit d'ailleurs, le bouclier tarifaire qui était à 4%, mais il passe à 15% pour l'électricité et le gaz, et puis il va arriver un moment où il n'y aura plus de bouclier du tout. Donc croire que l'État, quelque part, à partir de cagnottes qu'il a, va pouvoir nous protéger contre les effets des dérèglements du monde, c'est une illusion dangereuse que je crois que l'État entretient. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce que montre le reportage, c'est que les mesures générales, ça marche, c'est-à-dire que quand les gens n'ont pas besoin de faire une démarche particulière, quand ils bénéficient d'une baisse générale du prix à la pompe, ça marche. Par contre, quand ils doivent faire une démarche particulière, là, ça marche moins bien, parce que, comme ça a été dit, il y a la démarche individuelle qui consiste à demander quelque chose, et puis il y a le fonctionnement de base de l'administration française. Pourquoi ils nous réclament tellement de papiers? Pourquoi ils nous demandent de faire tellement de dossiers, etc.? C'est parce que nous sommes potentiellement considérés par l'administration comme des gens qui veulent tourner la norme, esquiver les contraintes, voire carrément tricher. D'où la multiplication de ces contraintes. Et alors on a, en même temps, avec le procès en dématérialisation, la modernisation de l'État, c'était de plus en plus la dématérialisation. Donc du coup, on crée une deuxième exclusion, comme ça a été dit tout à l'heure, par le recours à des procédures informatiques qui ne sont pas maîtrisées, parce que, objectivement, c'est difficile. Alors, il faudrait une vraie révolution copernicienne. Et le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de la SNCF. Bon, ils ont été obligés d'annuler toute une série de trains à cause des grèves. Bon, la SNCF fait un grand geste en disant, non seulement je vais vous rembourser le prix que vous avez payé, mais je vais vous rajouter un plus, et donc c'est 200 euros que je vais vous rembourser. Ah, mais pour cela, il va falloir que vous fassiez un dossier, que vous envoyez le dossier à la SNCF, qui va devoir être instruit, mais instruit par des personnels qui sont en nombre insuffisant, puisqu'on a passé son temps à éliminer ces personnels qui faisaient du traitement répétitif de dossiers standards. Donc, l'idée m'a traversé l'esprit, mais après tout, les gens, quand ils prennent un billet, ils payent avec une carte bleue. Pourquoi ?
Dans l'autre sens, ce serait pas.
Pourquoi dans l'autre sens, ce serait pas si simple ?
Sandra Wabian, c'est vrai que la multiplication de toutes ces aides, ce sont autant de démarches qu'il faut faire de plus en plus maintenant en ligne, parce que l'État a dématérialisé les services publics. Et c'est Claire Hédon qui disait qu'il y a beaucoup de Français qui n'y arrivent pas. Et elle disait qu'il ne faut pas sous-estimer on croit avec ces aides, soigner les plus fragiles. Et au contraire, elle dit on crée beaucoup de ressentiments parce que ça suscite beaucoup de colère que de ne pas avoir accès à des droits auxquels on est légitimement éligible. Et ne pas y arriver, quoi.
En fait, c'est toute la difficulté de l'équilibre entre le ciblage des aides. Donc là, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est plus simple de donner à tout le monde, mais ça a aussi des inconvénients. Par exemple, sur le carburant, c'est aussi financer les déplacements de personnes qui n'ont pas forcément besoin, qui roulent en SUV ou qui... Donc, à un moment donné, il y a aussi plein d'objectifs de politique publique. Il y a le soutien au pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'attention à la trajectoire carbone, etc. etc. Donc, on va cibler en se disant, là, les foyers monoparentaux ont un problème sur tel sujet, on va essayer de donner une aide qui vraiment aide ces foyers monoparentaux. Donc, faire une aide qui soit vraiment adaptée. Et l'autre bout de la chaîne, c'est avoir un système qui soit plus simple, plus lisible. Donc, en fait, on sait que tout le monde a droit, par exemple, sur la sécurité sociale, on sait que quand on va se faire soigner, on a le droit d'être remboursé. C'est vrai pour tout le monde. Mais c'est un système qui est plus coûteux, qui socialise plus les choses, c'est-à-dire qui met en commun toutes les ressources. Et donc, il y a un moment donné, on a de plus en plus de besoins sociaux, la dépendance, ouais. la retraite, la vieillesse, etc. On ne veut plus augmenter les impôts parce que les taux d'imposition sont importants. Donc, soit on diminue les aides et on les met sur les plus modestes. Mmh. Et ça, ça crée du ressentiment parce que les classes moyennes s'en sentent exclues. Soit on va chercher des ressources supplémentaires. Et donc là, c'est tout le débat, la taxation sur les super-profits.
Eh bien, on y va. Total, 20 milliards, près de 20 milliards d'euros de profits pour 2022. Alors que l'essence approche les 2 euros, ben, cette piste de taxer les super-profits de Total n'a pas fait réémerger. Vous voyez ce sujet de Chloé Tixier, David Bazier et Patrick Wurstorm.
2022, année record pour Total Energy. Son bénéfice s'envole tiré par les prix de l'énergie. 19 milliards 500 millions d'euros, du jamais vu dans l'histoire du géant pétrolier. Un chiffre qui fait réagir jusqu'au gouvernement.
Alors je comprends que le chiffre de 19,5 milliards dans le contexte que nous connaissons puisse choquer.
Un début de polémique anticipé par Total Energy. Son PDG a pris les devants.
Total Energy pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe.
Une nouvelle ristourne dans les stations-service, un geste attendu par de nombreux automobilistes.
On ne peut pas faire 20 milliards de profits et ne pas redonner un petit peu.
Éric Roulière, l'aumônier, est chauffeur de taxi à la campagne près de Bordeaux. De longs trajets qui l'obligent à remplir son réservoir 4 fois par semaine.
On faisait des pleins à 80-90 euros.
Et là, maintenant, vous êtes rendu à combien ?
On est à 130 dans le plein. Ça revient trop cher, c'est pas possible. Donc vous limitez dans votre travail.
La ristourne pourrait être envisagée si les prix dépassent les 2 euros le litre. Une mesure alors que le débat sur les super-profits gonfle aux États-Unis. Plus de 42 milliards de dollars de bénéfices pour Shell. Plus de 55 milliards pour ExxonMobil. Même au pays de l'argent roi, c'est trop pour le président Joe Biden.
Je trouve ça scandaleux. Ces entreprises doivent bien faire.
Il plaide pour plus de taxes, mais a peu de chances de convaincre les Républicains qui contrôlent une partie du Congrès.
Sandra Wabian, on entend Joe Biden vouloir taxer davantage les rachats d'actions. Olivier Véran, comprendre que ça puisse choquer d'avoir Total annonçant 20 milliards de profits à un moment où tout le monde se serre la ceinture.
C'est... Là, on a un peu une forme de résumé des contradictions de notre époque. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui... est investi dans les énergies fossiles. Donc on peut questionner le bien pour la population. En tout cas, il y a une partie de la population qui le questionne. Une entreprise qui fait beaucoup de profits alors qu'on est dans une période où on a des difficultés au niveau des ménages. Donc ça pose la question de la répartition des richesses, en fait, et notamment la répartition du patrimoine. Parce qu'en fait, en France, on a des inégalités de revenus qui sont relativement faibles. Et là, d'ailleurs, avec l'augmentation du SMIC, d'une certaine manière, on resserre un peu l'échelle des salaires. Par contre, on a des grosses augmentations de patrimoine, en fait.
Donc, patrimoine qui soit immobilier ou financier,
voilà.
Avec des actions.
Et donc, la question se pose de
mieux répartir
les richesses, parce que c'est aussi, alors même du côté libéral, on va dire, de l'échelle...
D'éviter les rentes.
Voilà, d'éviter les rentes et de créer du dynamisme, en fait.
Élie Cohen, et Pierre, le procès qui est fait à Total, c'est que pour le coup, c'est la guerre en Ukraine, donc c'est une cause extérieure. Qui a généré ces super profits.
Absolument. Et d'ailleurs, si on voulait vraiment aggraver le cas de Total, on dirait que les profits ne sont pas de 19 milliards, mais de 28 milliards, parce qu'en fait, ils ont déduit de leurs profits des provisions passées pour la liquidation de leurs actifs russes.
Pour le départ de la Russie.
Voilà. Donc, si on veut vraiment montrer l'horreur absolue, on n'a qu'à rajouter
ces chiffres.
Mais alors, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder de plus près. Est-ce que Total fait ses profits en France ? En France, il a une activité de raffinage distribution. Je crois que
qui gagne trois fois rien. Bonnes années.
Voilà, qui gagne trois fois rien les bonnes années. Donc, il faut se poser la question d'où viennent les super profits Total. Moi, je serais l'Angola ou je serais l'Arabie Saoudite ou je serais le Qatar. Je me dirais, en France, ils trouvent vraiment que Total gagne trop d'argent, que Total, c'est vraiment un scandale. Mais nous allons augmenter les taxes que Total paye chez nous. Pour prélever notre pétrole, pour exploiter notre pétrole, ils ne payent pas assez cher. Je veux dire, l'idée de croire que les profits de Total sont la propriété de la France et qu'on va les distribuer pour les retraites, il faut vraiment être un élu écologiste pour le penser.
Bien, bon, démonstration voilà. Est faite.
Donc, si vraiment on pense que Total a trop d'argent, il faut s'attendre à ce que l'Arabie Saoudite et le Qatar élèvent leur prix du pétrole. Maintenant, ceci étant dit, quand Biden intervient pour dire... que l'usage que fait que font les compagnies pétrolières par leur achat d'actions n'est pas acceptable et que si c'est le cas, on va les taxer parce qu'on voudrait plutôt qu'ils investissent dans du nouveau pétrole, du nouveau gaz ou des énergies renouvelables, là, c'est quelque chose qu'on peut comprendre.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair qui est disponible, je le rappelle, en podcast audio sur toutes les plateformes. Bonne journée et à demain.